Billy the Kid, Figouz et compagnie, c'est parti.
Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Billy the Kid, Figouz et compagnie. C'est un nouvel épisode du Père Liénard. Salut Liénard.
Salut BZ.
Alors, nous continuons donc le fluff de Conquest, hein, pour rappeler quelle merde a gêné. Enfin, comment est-ce que tout ce bordel a pu se générer? Rappelle-nous déjà, ce qu'on avait vu dans les épisodes précédents, où est-ce que, en gros, on s'en était arrêté, et de quoi tu vas parler aujourd'hui?
Eh bien, dans l'épisode précédent, nous avions vu l'arrivée sur le monde des Dwegom, la fin des dragons, et la grande guerre de la mémoire qui s'en est suivie, c'est-à-dire les affrontements entre les clans Dwegom. Donc ça, c'est tout, ça c'est dit, ça c'est fait. Maintenant, on va s'intéresser aux nouveaux joueurs de cet univers, l'humanité, qui jusque-là n'avait pas eu un grand rôle.
On rappelle aussi au passage que les Spires avaient mangé leur mort dans l'épisode précédent.
Aussi, mais ça voilà. C'est...
C'est normal.
On va dire, les Spires mangent toujours leur mort, hein. Ça, c'est une tradition.
Eh ben allons-y, parlons de ces bipèdes poilus.
Ce qui est sans doute comme ça que les Dwegom les appelaient, d'ailleurs. Alors, quand on parle des humains dans Conquest, faut bien l'avouer, on ne sait pas grand-chose de leurs origines. On pense qu'ils étaient là depuis à peu près l'aube des temps, ou en tout cas à minima depuis que les Dwegom ont brisé le monde, et qu'ils ont donc évolué comme ça au gré des pérégrinations, des pèlerinages, ce genre de choses, mais qu'ils n'ont jamais représenté pour ce qu'on appellera les anciennes races, c'est-à-dire les exilés, donc les Spires, les Tisseurs et les Silencieux, ainsi que les Dwegom. Donc ils n'ont jamais représenté une menace ou un sujet de discussion qui allait plus loin que « Oh tiens, regarde maman, il y a des trucs chelous devant ma forteresse. » Les premières traces d'ailleurs qu'on retrouve des humains dans l'univers de Conquest viennent de chez les Dwegom, qui ne les nommaient pas vraiment comme un peuple à part entière, mais qui les voyaient plutôt comme une étrange race bipède. C'est comme ça que c'est écrit. Et que les patrouilles affrontaient souvent parce que ces étranges bipèdes se perdaient dans les halls des forteresses, notamment dans les niveaux supérieurs. Et qu'ils avaient beau les chasser, ils n'avaient toujours pour revenir. C'est dans l'esprit d'un Dwegom, un humain, c'est un truc qui a deux pattes, qui est complètement con, parce que même quand on lui pète la gueule, il revient. Et en plus, il y en a beaucoup. Alors là, je te jure.
Ce sont des nuisibles, quoi.
Moi, je suis à peu près sûr qu'il y a un texte à écrire avec un arbre d'étrier de Dwegom qui s'entraîne sur les humains. C'est à 100%. Bon. Autant dire que pour l'humanité, c'était pas forcément la période la plus douce. Hein. Les exilés régnaient encore à peu près en maître sur leur Spire. On était d'ailleurs en plein conflit avec les Dwegom naissants. Les Dwegom eux-mêmes étaient en guerre les uns contre les autres et contre les Spires. Donc, bilan des courses, les humains étaient souvent pris entre deux feux. Et pendant ce temps-là, les humains n'ont pas vraiment progressé. Ils étaient de toute façon totalement ravagés par une armée ou par une autre. Ça n'allait pas loin. Mais bon, les siècles passent, les Dwegom et les Spires se fatiguent, leurs sociétés sont affaiblies, ont besoin de se reposer, d'être fortifiées par différentes lois et différents systèmes politiques. Et les humains qui jusque-là étaient toujours brimés peuvent enfin se déplacer à ciel ouvert. Bon. C'est pas pour autant que ça se passe bien ou rapidement. Hein. Les humains, à cette époque-là, c'est un peu les hommes des cavernes, hein, ou des premières tribus. Ils savent pas faire grand-chose. Ils ont un petit peu d'armement en bois, avec un petit peu en pierre. ils savent pas faire de feu ou quasiment. Mais bon, ils ont un avantage que nos propres ancêtres du vrai monde n'ont pas eu. Il y a des ruines autour d'eux, des ruines des Dwegom notamment. Parce que bon nombre des forteresses Dwegom ont été abandonnées, détruites par les spires, par les dragons, ou simplement parce que les clans qui vivaient à l'intérieur se sont déplacés vers d'autres forteresses pour se rassembler. Mmh. Et donc les humains, ils vont profiter de cette absence. Ils vont s'installer dans ces forteresses et ils vont faire un peu une sorte de reverse engineering des technologies draconiques, naines et Dwegom sur place. Alors, c'est pas un processus rapide. Hein. Il faut plusieurs millénaires aux humains pour commencer à acquérir un véritable savoir sur les outils. Mais à partir de là, les choses vont s'accélérer. Pour citer le livre, la maîtrise des outils demandera quelques millénaires, la maîtrise du feu demandera quelques siècles de plus, la maîtrise du briquet et du durcissement à la flamme encore quelques siècles de plus, et à partir du moment où on sait allumer un feu à coup sûr, en quelques décennies, on commence à savoir fondre le métal. En tout cas, les métaux les plus basiques. Et pour le coup, les métaux basiques, ça tombe bien, les forteresses Dwegom en sont pleines, donc c'est pas difficile à trouver.
Excuse-moi, tu dis quelques millénaires et tout ça, mais on reste quand même sur... Enfin, les humains ont une durée de vie de même pas 100 ans, enfin c'est pas...
Non, on a une durée de vie de 50 ou 60 ans à cette époque-là. Hein.
C'est des générations
d'humains, en fait. C'est juste que pendant ce millénaire, ces siècles... C'est le temps qu'il faut aux Spire et aux Dwegom. Alors après, on peut aussi le comprendre un peu différemment dans le texte et dire que cette maîtrise des outils avait commencé déjà pendant les guerres entre les Spire et les Dwegom. Hein.
D'accord.
Voilà, okay. Et ça s'est poursuivi au fur et à mesure. Puis plus les guerres cessaient, plus les humains arrivaient à se développer vite. C'est une lecture tout à fait possible.
Compris.
À partir de là, donc, les humains ont commencé à découvrir des choses, les choses les plus utiles, hein, comme la roue, par exemple, la capacité à parler, l'évolution du langage, à exprimer des nuances, et même pour certains, d'ailleurs, l'écriture. Alors, une partie peut être attribuée aux forteresses, donc avec les différents systèmes de hiéroglyphes et tout qu'utilisent les Dwegom. D'autres simplement parce que les humains ils sont quand même pas idiots non plus, hein, donc au bout d'un moment ils finissent par comprendre des choses. Mais voilà que va entrer en scène un nouvel arrivant, Azlia, celui qui deviendra plus tard le maître de l'humanité. Alors, Azlia, lui c'est toute une affaire. Hein. Parmi toutes les tribus dont j'ai parlé, qui ont découvert différentes choses, il y en a une qui va marquer l'histoire plus que les autres. Celle qu'on appelle tout bêtement la première tribu. Alors, bien entendu, elle n'a rien de première, hein. Elle n'était qu'une parmi d'autres. Mais comme c'est celle qui fera naître le Dominion plus tard, on l'appellera la première. Donc, eux, comme beaucoup d'autres de leurs congénères, pendant sans doute un hiver glacial ou poursuivi par des prédateurs, ils ont été se réfugier dans une forteresse Dwegom. Abandonnés. Et là, ils ont découvert quelque chose qui allait tout changer. Ils ont découvert une forge élémentaire. Les forges élémentaires, donc, ce sont des constructions draconiques que les nains entretenaient et que les Dwegom ont récupérées ensuite, qui sont un petit peu des super forges, on pourrait dire. Qui fonctionnent de manière quasiment indépendante, qui ont d'ailleurs continué à fonctionner pendant des siècles après que les derniers Dwegom soient partis de la forteresse, et qui étaient alimentés non pas par du simple feu ou du carburant comme du charbon ou autre, mais par des échardes de primordiaux, des morceaux de création et destruction. Alors, on peut se demander pourquoi est-ce que la forteresse était abandonnée. Après tout, des forges élémentaires, à ce qu'on sache, on n'en a pas beaucoup. Ce n'est pas des constructions courantes, même dans les forteresses de gomme. Mais on ne saura jamais vraiment pourquoi cette forteresse-là a été abandonnée. Tout ce qu'on sait, c'est que les deux gommes qui l'habitaient sont morts. Ils sont visiblement pas partis d'eux-mêmes. Donc peut-être une épidémie, peut-être une guerre privée qui a mal tourné, peut-être que le lieu est considéré maudit. On sait pas. On sait pas. Toujours est-il que les humains vont s'installer autour de cette forge que nous n'avons jamais vue, hein, qui est toujours en activité, même quand il n'y a personne pour l'activer. Et ils vont se réchauffer près du feu. Et ce feu, ils vont faire quelque chose qu'aucun autre groupe d'humains n'avait fait jusqu'alors. Ils vont commencer à le vénérer. Et à vénérer la machinerie autour. Et ces prières, elles vont être entendues par une des échardes de primordiaux à l'intérieur. Et c'est cet acte-là, précisément, qui va tout changer. Alors, avant d'aller plus loin sur les événements qui vont suivre, je voudrais faire un petit aparté sur les échardes des primordiaux. En gros, qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond, comment ça marche. Alors, c'est pas forcément évident à expliquer sans devoir partir dans une longue détrive, donc je vais essayer de faire court. Une écharde de primordial, elle provient de la genèse de Conquest, quand création et destruction s'affrontaient. Création a donné un grand coup à destruction, ce qui l'a blessé, qui a étendu son sang, et destruction a répliqué en brisant création. Ce qui formera après, par l'arrivée d'équilibre, les étoiles. Ça, on le sait. Il faut se dire que à peu près tout ce qui existe dans Conquest et qui est conscient est un petit mélange de ces échardes. D'ailleurs, tout ce qui va être les animaux qu'on pourrait considérer normaux et classiques, hein, comme des chevaux, des lapins, des chèvres, ce genre de choses, c'est en fait des échardes de destruction et de création rassemblées ensemble à l'équilibre. Et je parlais du fait que la vie est arrivée. Bah, la vie, en fait, c'est ça. La vie, c'est la capacité de deux échardes à adopter une forme physique. Alors, un petit aparté encore une fois, il n'est pas très très clair. Est-ce que la vie est juste le nom du phénomène ? Est-ce que la vie, c'est une troisième force qui permet la création de ce phénomène ? On n'est pas trop sûr. Alors, le lore a l'air quand même de partir plutôt sur la deuxième hypothèse, hein, comme quoi la vie est une force à part entière qui va assembler des énergies pour en faire des êtres vivants. Mais voilà, on ne sait pas trop.
Ouais.
Voilà. D'ailleurs, petit aparté, alors là c'est mon fan canon, hein, mais moi je suis sûr que les chats, c'est pas, ils sont pas à l'équilibre. Hein. Les chats, ils sont chez Destruction et c'est tout.
Mais non, ils sont bien les chats.
Voilà. Maintenant que j'ai fait mon petit rant sur les chats.
Ils domineront le monde.
Ils domineront le monde, évidemment. Comme le Dominion. Et donc, on parle de ces fameux échards de primordiaux. Donc les échards de primordiaux, il en existe toutes les tailles, toutes les formes. Les plus grandes, ce sont les étoiles. Évidemment.
Obviously.
Les plus puissantes, ce sont les cavaliers, qui ne sont finalement rien d'autre que des grandes échardes. Hein,
ouais.
Et ensuite, il y en a une infinité de plus petites, qu'on peut classer sous différents angles, sous différents noms, par exemple les anges, les démons, les élémentaires. Ce sont trois types d'échardes qui existent. Les anges étant des échardes de création, les démons des échardes de destruction, et les élémentaires, très probablement des échardes à l'équilibre. Mais pas touchés par la vie, et donc encore un peu instables.
D'accord.
Maintenant, comme j'ai dit, elles viennent dans toutes les formes, tous les types, et certaines d'ailleurs sont conscientes. Les cavaliers étaient conscients, par exemple. Les animaux sont, d'une certaine mesure, conscients. D'autres sont complètement inconscients et même totalement inertes. Par exemple, il y a pas mal d'écharpes de destruction qui ont infusé dans des matériaux inertes, comme du métal par exemple, qui vont leur donner des propriétés spécifiques. Genre le rendre plus tranchant, le faire s'enflammer au contact de l'air, ce genre de choses. Et ces écharpes-là bah, vont perdre le peu de conscience qu'elles ont. À savoir quand même que la majorité des échardes n'ont pas de conscience, mais plutôt une espèce d'instinct, si tu veux. Un instinct de conservation.
D'accord.
Voilà. Après, on pourrait faire un petit peu un petit aparté sur comment chaque race utilise les échardes, parce que toutes les races les utilisent. Peut-être que les spires qui les utilisent pas, et encore. Et encore et encore. On y reviendra avec les Wardrones. Mais bon, tout ça pour dire que globalement, chaque race les utilise un peu à leur manière, et que les humains, finalement, n'ont fait que les utiliser d'une autre façon, en les vénérant.
Voilà. Les Dwegon, ils l'utilisent pour faire cuire des merguez, et les humains...
Les Dwegon, c'est au choix. C'est ou bien ils en font des sources d'énergie. Typiquement, les automates. Ce sont les écharpes de destruction quasiment pures. On a collé dans une carcasse de métal et à qui on a dit « Allez, va tuer des trucs ».
C'est vrai.
Les ardents aussi, d'ailleurs, chez les Dwegon, les utilisent. Parce que comme ils brûlent déjà à l'intérieur, ils se contentent de récupérer plus des shards et de les utiliser comme outils de forge pour pouvoir se renforcer.
D'accord.
Voilà, entre autres. Voilà, donc on a fait un petit aparté sur ce qu'étaient les shards. On va pouvoir retourner
à ces hippies qui vénèrent un feu.
Voilà, à ces hippies qui vénèrent un feu. Bon. Donc les humains commencent à vénérer le feu. Voilà, ça vénère, merci le feu de nous faire chaud et doux et tout ça. Et je disais donc que l'écharde va y réagir. Alors c'est assez surprenant qu'une écharde réagisse aussi positivement à une vénération. Habituellement, elles sont plutôt... elles sont quand même plutôt inertes, hein, même si on les touche ou quoi. Mais là, la théorie, c'est que les shards avaient été traumatisés par le sort que lui avaient fait subir les dragons, comme carburant de forge. Et que du coup, ben, le fait d'être vénéré et bien traité, en gros, ça l'a fait réagir convenablement, quoi. Et elle a commencé à grandir, cette écharde. Et du coup, à diffuser plus de lumière et plus de chaleur. Ben, du coup, qu'est-ce qu'ont fait les humains? Ils l'ont vénéré encore plus. Bah ouais. La source de chaleur que tu vénères, tu lui dis les prières et elle grandit. Bah tu l'as pris encore davantage. Et c'est comme ça que pendant quelques cycles, on sait pas trop, quelques années sans doute, les humains en fait se sont installés dans la forteresse, ont vénéré de plus en plus cette grande source de chaleur, qui elle-même a grandi, a commencé à absorber les échardes de taille inférieure qui étaient dans le four avec elle. Et les humains ont commencé à avoir un peu le réflexe, probablement le réflexe suggéré, de ne plus vénérer la machine en elle-même, mais vraiment de vénérer spécifiquement le feu dans la machine. Parce que jusque-là, ils vénéraient vraiment la forge comme une entité entière, alors que là, non. Donc là, maintenant, ils vénèrent la source d'énergie. Et cette prière plus concentrée va encore accélérer le développement de l'écharde. Encore et encore. Jusqu'à ce que l'écharde, qui jusque-là était pas à peine consciente, et encore pas vraiment, commence à acquérir une forme de compréhension de son environnement. Et elle avait envie, cette écharde de création, il fallait que je vous le précise, elle avait envie d'aider ces gens qui la priaient. Donc ces gens lui adressaient des prières et elle tentait d'y répondre. Alors, pour le coup, elle n'avait pas beaucoup de compréhension de ce qu'ils voulaient, hein, ces gens-là. Donc, au début, elle a surtout appris de ce qu'ils lui enseignaient par leurs prières. Et c'est que justement, au fur et à mesure du temps, elle comprenait de mieux en mieux c'est quoi un humain, c'est quoi l'extérieur, c'est quoi la faim, c'est quoi le froid, c'est quoi la chaleur, c'est quoi le sommeil, les rêves, l'amour, ce genre de choses. Et donc, plus elle grandissait, plus elle comprenait, plus elle essayait d'y répondre, et plus elle parvenait à y répondre. Et au bout d'un moment, on est passé d'une simple écharde inconsciente à une entité qu'on n'appellera pas encore tout à fait un dieu, mais qui en prenait bien le chemin. Et elle a commencé à parler à la première tribu, à communiquer avec eux par l'intermédiaire de leurs pensées, de leurs rêves. Et c'est à partir de ce moment-là que les humains ont commencé à donner un nom à cette entité. Mmh. Ils l'ont appelée Azlia.
Vous auriez pu faire plus simple, quand même.
Bah écoute, hein, tu sais. Encore un prêtre qui a voulu se démarquer.
Ouais, vas-y.
Je vous rappelais Az. Voilà. Allez, Az.
Voilà.
Et alors, c'est vrai que maintenant, quand on voit ce qu'est devenu le Old Dominion, on s'en étonne un petit peu, mais Azlia, au départ, était un dieu bienveillant, et vraiment bienveillant, d'ailleurs. Les gens venaient avec leurs problèmes, et il essayait vraiment d'y résoudre.
Ouais, mais bon, être trop dépendant d'un dieu, c'est jamais bon.
C'est un peu ça. Parce que les gens venaient avec des problèmes pratiques, auxquels Azlia essayait de trouver des solutions pratiques. Ce qui a permis aux outils de la première tribu de rapidement évoluer. Les problèmes trouvaient souvent des solutions, et bien, au fur et à mesure, la première tribu a réussi à devenir meilleure technologiquement que ses voisins, et à les soumettre, pas à pas.
Ce que j'allais dire, c'est le fait que Azlia aide énormément la première tribu, ça a fait qu'ils ont pris le melon, il n'y a pas eu non plus... comment dire, un effet de bouche à oreille qui a fait une croissance interne, on va dire, de la tribu, par d'autres tribus qui les réunit, qui les rejoignaient ou des choses comme ça.
Si, il y en a eu.
Et après, sinon, c'est soit tu nous rejoins, soit on te soumet, quoi.
On allait y venir, justement.
Ok, il y a bon, excuse-moi.
C'était la suite.
Excuse-moi.
Pas de soucis. Pas de soucis. Bon, toujours est-il que, justement, la première tribu, au bout d'un moment, est arrivée, on va dire, au zénith de ses possibilités au sein de la forteresse. Les tribus les plus proches avaient été subjuguées ou soumises. Et Azlia commençait à se sentir grave à l'étroit au sein de sa machine. Donc il a décidé d'en sortir. Et d'aller au soleil avec sa tribu pour voir un peu le monde extérieur. Au passage, il en a profité pour absorber les derniers fragments primordiaux qui se trouvaient dans la forge, histoire de se donner un petit coup de boost avant la grande sortie. Et ça a eu un effet secondaire assez incongru, c'est qu'il a aussi récupéré la mémoire de ces morceaux de forge. Et comme c'était souvent des morceaux de forge qui avaient été utilisés pour la forge d'armes de guerre, Zia s'est retrouvé avec une certaine connaissance des armes de guerre qu'il n'avait pas avant.
Ingénieur de l'armement, super.
Tout à fait. Donc Azlia sort de la forteresse d'Wegom avec la première tribu, des idées plein la tête et un monde à conquérir.
Excuse-moi, mais Az sort comment? Enfin, c'est une flamme, c'est juste une... Enfin, c'est un brasier, tu bouges ou...
On ne connaît pas sa forme physique. D'autant plus que sa forme physique est assez aléatoire apparemment. Elle dépend beaucoup de la façon dont ses croyants le voient en fait.
D'accord.
Qu'il est nourri par leurs prières.
Ouais.
Donc bon, il y a justement un passage à ce sujet qui viendra un peu plus tard.
D'accord, ok. Donc ok, et elle sort sous une forme... Il
sort sous une forme quelconque. Alors moi j'aime l'imaginer qu'il est sorti sous une espèce de grand être humain tout feu tout flamme.
Ah, moi je veux un barbecue.
Ouais, alors... c'est une possibilité également. Mais je sais pas, moi je tends à me visualiser Azlia comme étant vénéré par des humains qui sont sur voilà, style... âge du bronze,
donc,
avec des dieux très humanisés encore. Donc Azlia qui a une forme lui-même très humanisée.
Ouais, elle a fait un peu de mimétisme quoi.
C'est ça. Puis c'est le plus simple, autant pour lui que pour les autres.
Ouais.
Maintenant, Azlia, il est sorti de sa prison, il est là, il est balèze, mais il a un objectif. Il veut encore grandir. Il veut encore comprendre le monde davantage. Il a envie d'aider ses humains également. Il a envie, en fait, vraiment de devenir un dieu, un vrai. Voilà. Alors, d'où lui vient cette envie? Là, c'est assez compliqué à dire. Il y a une possibilité que ça soit le fait qu'il soit lui-même une écharpe de création, et que comme le soleil, qui est une étoile, est aussi une écharpe de création, en gros, il se soit senti attiré par le soleil, et qu'il ait envie de dire, en gros, je veux le rejoindre. Je veux devenir aussi grand, aussi beau. C'est loin d'être la théorie la plus idiote. Hein. C'est même plutôt cohérent avec ce qu'on sait des écharpes primordiales, qui aiment bien se regrouper. Sinon, bah, parfois, on pense juste qu'il a été, entre guillemets, forgé par les désirs des humains, qui étaient souvent de la conquête, et choses comme ça. Ou simplement qu'il s'est dit que bah, il était le meilleur dirigeant qui soit. Donc, bah, s'il arrivait à avoir le plus d'humains possible sous son aile, il pourrait les aider le mieux qu'il peut, entre guillemets. Un peu, c'est le tyran bienfaiteur.
Je le vois un peu comme Ultron, tu vois, là.
Je suis pas assez fan de Marvel pour voir de quoi il s'agit.
Ouais, c'est un robot fait pour faire la paix, et au final, il se rend compte que le problème, c'est les humains, donc il doit les éradiquer, tu vois.
Pour le coup, Asian ne veut pas éradiquer les humains, mais c'est un peu l'idée.
Bon. Donc il voilà. Veut absorber le soleil.
Il veut absorber le soleil. Enfin, en tout cas, il veut le rejoindre. Devenir une étoile, lui aussi. En tout cas, c'est une théorie. Maintenant, Asgia est sortie, et les gens, il veut installer sa tribu. Donc c'est là que les humains vont commencer à découvrir des choses, sous sa férule, hein, vont commencer à découvrir des choses comme l'agriculture, par exemple. Ou le travail de métaux plus complexe, avec des méthodes de forge plus difficiles. Et ensuite, eh ben, c'est l'heure de s'étendre. Et là, il y a eu 3 vecteurs d'expansion. La guerre,
oui,
évidemment.
Classique.
La conversion. Là, c'est simplement, ses partisans ont convaincu d'autres tribus qu'il était le meilleur leader possible. Et les gars ont été d'accord. Et un troisième point qui est un petit peu différent.
La soumission.
Non, pas vraiment. Alors, Asgia, pour le resituer, il ne faut pas sous-estimer son influence sur les humains. Il ne faut pas sous-estimer à quel point il les a aidés. Il ne faut pas le surestimer non plus. Il a fait qu'accélérer un processus qui était déjà en place. Les humains n'avaient pas besoin de lui pour découvrir tout ça. C'est juste qu'il a fait gagner quelques siècles. Alors, c'est déjà pas mal, hein. Je veux dire, si ta tribu gagne quelques siècles sur la suivante,
t'as un avantage compétitif.
Tout à fait. Mais il ne faut pas le voir comme une espèce de divinité surpuissante qui balait ses adversaires dans un océan de feu. À ce stade-là de l'histoire, il n'est pas du tout assez puissant pour ça.
C'est un support, quoi.
C'est un support. Mais il a créé quelque chose, il a eu une idée qui était quelque chose. Parce que son génie à Asgia, c'est pas sa grande puissance, c'est pas sa nature magique, non. Son génie, c'est qu'il est adaptable avant tout. Et qu'il sait parfaitement utiliser les attentes, les désirs et les capacités des humains pour aller dans le sens qu'il veut.
T'as dit avatable ?
Adaptable.
Adaptable, ok. J'ai compris. Donc, avatable, j'étais là. Oula.
Non. Adaptable. Il est adaptable avant tout.
Ok.
Et on suppose qu'il a créé l'argent, les pièces de monnaie, le fait de commercer avec des pièces.
Le capitalisme.
Et il y a même une légende, d'ailleurs, que je vais m'empresser de raconter, qu'il relate. Parce qu'il est dit dans les archives du Dominion qu'au temps de la première tribu, il y a un homme avec des cheveux d'or et des yeux brillants qui s'appelait Leatas Solus, qui est sorti de la grotte avec la première tribu et qui a subjugué en quelques années toutes les tribus humaines autour de lui. Et il s'est étendu comme ça, il a subjugué toutes les tribus, d'abord proches, puis plus lointaines, et puis après il a été jusqu'aux confins du monde et il les a conquises. Et peu à peu, il les a toutes eues sous son emprise. Et là, tu te dis, mais attends une minute, c'est qui Leatas Solus, c'est Asgia qui a guidé la première tribu, c'est quoi ces conneries? Eh ben, Déjà, faut pas oublier qu'Azlia, il sait manipuler l'histoire aussi. Il a su manipuler ses adeptes. Donc cette histoire de Leatas Solus, c'est peut-être bien lui qui l'a inventée. Et surtout, le Solus. Ben, le Solus, c'était la monnaie en cours dans le Dominion.
Ah, c'est d'accord.
Ouais, c'était la monnaie. Du coup, la théorie la plus probable, c'était qu'en fait, Azlia, sa plus grande force n'a pas été la guerre ou la conversion par la foi.
Répandre des fake news.
Le commerce. Et en fait, rendre tout bêtement, rendre les autres tribus dépendantes par le commerce.
De la
si t'as une tribu centrale, voilà ça, parce que si t'as une tribu centrale qui sait faire de l'agriculture, du travail du cuir ou du métal ou de la pierre, à un tel point que ça t'apporte un confort de vie dont tu ne peux plus te passer, et ben peu à peu, tu te fais subjuguer. Et tu rentres dans le rang, tout seul, comme un grand.
Ouais.
D'où la légende de Leatas Solus, qui arrive, par la seule force de son charisme, à subjuguer les autres tribus.
D'accord.
Pas mal, hein. Mais... On va retourner à Azlia, qui est en train de... qui est en train, en fait, de bâtir son empire, quoi. Le Dominion. À partir de là... Azlia, il va commencer un peu à changer son fusil d'épaule.
Excuse-moi, mais là, on parle toujours de première tribu.
On parle de proto-empire à ce niveau-là.
Ok.
Alors, on parle encore un peu de première tribu de ce site-là pour dire que c'était un peu le centre premiers, de son. Voilà, ses premiers fidèles. Mais plus on avance dans le temps, plus cette notion va s'étioler. Mm. Et d'ailleurs, là, sur la partie dont je vais parler. Soyons clairs, hein, c'est au bout de quelques décennies, c'est le Dominion.
Okay.
On ne parle même plus de première tribu. Donc, à ce temps-là, quand la première tribu devient le Dominion, Azlia commence à avoir des problèmes. Parce que il reçoit beaucoup de prières, beaucoup de pensées envers lui, mais elles commencent à être contradictoires.
Ah.
Tant qu'il y avait peu d'humains, ça allait. Il arrivait à gérer. Maintenant qu'il y a beaucoup d'humains, les humains, ils ont des désirs nombreux, contradictoires et pas forcément faciles à résoudre. Puis simplement, il suffit d'un problème du style homme A et homme B veulent tous les deux la même femme. Ouais, d'accord, il fait comment Azlia, lui? Il veut satisfaire tout le monde, c'est compliqué. Puis d'autant plus que tous ces désirs n'ont pas forcément le même ordre de priorité. Le mec qui veut empêcher sa tribu de mourir de faim, c'est pas le gars qui veut un nouveau marteau, quoi.
Ouais.
Et tout ça commence à être vachement compliqué pour Azlia. Et son corps commence à arriver un peu au bout de ce qu'il sait faire. Et il se dit qu'il va devoir trouver une solution alternative. Cette solution, il va la trouver en s'arrachant des parties de lui-même, en les modelant, et en leur donnant un rôle. C'est la création du Panthéon. En gros, littéralement, il nous a fait une mythologie grecque. Hein. Lui-même se voit comme Zeus, en haut de l'Olympe, qui juge les hommes et les affaires les plus importantes du monde des dieux. Et chaque dieu en dessous qui gère ses petites affaires. Sachant que, alors je vais vous les citer rapidement, hein, le panthéon en question est formé du père, qui est aussi affilié au maître, au dirigeant, c'est lui, la mère, le chevalier, l'oracle, le fou, l'artisan, le mage, l'indompté, donc c'est ou qu'on appelle aussi la bête ou le barbare, l'amant, l'aventurier, la victime et le soldat.
Voilà. C'est très carte de tarot.
Très carte de tarot, effectivement. Et donc tout cela vont s'occuper globalement des affaires courantes, si on pourrait dire ça comme ça. Et les
chacun...
choses, lui n'a pas envie de s'en soucier.
Chacun avec un domaine de compétence, je suppose.
Ça. Sachant qu'après, il va commencer ensuite à se resubdiviser avec des anges, des saints, des choses comme ça, avec des rôles plus spécialisés. Mais à ce moment-là de l'histoire, on n'en est pas encore là.
Voilà.
Donc, il va créer ses sous-dieux, on pourrait dire, leur donner leurs tâches, et il va s'atteler surtout à ce que les humains les vénèrent correctement. En gros, que les humains vénèrent chaque aspect comme il le faut, et comme il en a l'envie. Alors parfois, c'est fait subtilement, avec des incitations, des petits miracles, choses comme ça. Parfois, c'est fait beaucoup moins subtilement, et même si c'est pas détaillé, on se doute que ça s'est réglé à coups de bâton dans la gueule, pour ceux qui n'étaient pas d'accord. Bon. Quelques années passent, les choses se tassent, la religion se fait, et Azilia peut se concentrer sur les choses importantes, comme gérer les grands axes de l'Empire, et se concentrer sur comment outrepasser sa forme divine pour atteindre un plan d'existence supérieur. Dans le même temps, la première tribu s'est définitivement dissoute hein, dans le Dominion, et toutes les tribus d'ailleurs sont dissoutes dans le Dominion, et le Dominion commence à ressembler véritablement à un empire. C'est d'ailleurs la naissance et l'explosion démographique de Capitas, la première cité, qui se trouve sur les bancs de la rivière Aos, et qui devient le centre administratif et religieux du Dominion.
Et la forteresse d'Ouegom du début est totalement... Enfin, totalement il s'en fout. Okay.
S'en fout. De toute façon, depuis qu'il en est parti, elle est à l'arrêt.
Ouais, d'accord.
Bah, du coup, il a plus de carburant. Et ni lui, ni les autres ne savent vraiment comment est-ce qu'elle marche.
Okay, ouais, non, okay.
C'est trop compliqué pour... À son niveau de compétence magique, c'est trop subtil.
Tac.
Ou alors, peut-être même... Ça, c'est pas précisé, mais peut-être même d'ailleurs qu'il l'a détruite lui-même pour éviter que quelqu'un d'autre fasse la même chose, tu vois.
Ou la renferme, ouais.
Bon. À partir de là, c'est vraiment à partir de ce moment-là que Azilia, lui, abandonne complètement son rôle de maître artisan et de conseiller en communication amoureuse pour se définir comme le dirigeant paternel adoré
de son empire.
Voilà, de son empire distant. Et il va d'ailleurs prendre le soleil comme son symbole et il va superviser la naissance de l'église du Panthéon et aussi de collège de magie parce qu'il avait envie de pouvoir compter sur des hommes compétents pour l'aider. Encore une fois, à ce moment-là de l'histoire, Azilia est du côté de l'humanité. Hein.
D'accord.
C'est pour ça qu'il est aussi bienveillant. Alors, on commence déjà à voir chez lui l'éloignement.
Les traits du mégalomane, quoi. Enfin,
voilà, et ça commence tout doucement à pointer, mais pas encore au point où les humains ont de quoi s'inquiéter. Au pire, c'est juste le tonton de bons conseils, mais un petit peu distant, qui vient en pas de famille à Noël, quoi.
Ouais, au pire, il y en a un qui crève parce qu'il a pas subi le règlement que tout le monde suivait, quoi. Enfin, voilà, c'est pas grand-chose, bon...
Et on lui dit « bien fait pour sa tête ».
Voilà, il a pas respecté les règles, point. Le bon vieux temps.
Tout à fait. Et maintenant que l'Empire d'Azilia a 7 ans, et il va faire la rencontre de différentes créatures qui sont également nées des échardes de création. Enfin, des échardes de création et destruction. Donc il va rencontrer des démons, des anges, des élémentaires, dont je parlais plus tôt.
Mmh.
Sauf que la plupart étaient plutôt faibles, à vrai dire. Parce que comme les dragons chassaient les primordiaux depuis l'aube des temps, tous les fragments les plus puissants avaient déjà été tués.
Ou en forge, quoi. Ou mis en forge.
Ça, ou placés en forge. Du coup, les seuls qui restaient, c'était des entités de puissance inférieure. Alors, quand je dis inférieure, sans doute qu'on est au niveau d'un monstre de conquest, hein, capable de dégommer un ou deux régiments sans trop de difficultés. Mais au niveau de puissance qu'il avait atteint à ce moment-là, ils n'étaient plus vraiment un danger. D'ailleurs, il y a des bonnes raisons de penser que la Fallen Divinity, par exemple, était un de ses anges ou un de ses démons.
Ouais, qui a retourné sa veste, quoi.
C'est ça. Parce que d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. Hein. Il va être très clair avec eux. Il va prendre les démons, il va les capturer, s'en servir comme de parchemin magique, en faire des trucs. Ou alors il va s'en faire des commandants, il va les envoyer au combat. Mmh. Les anges, pareil, il va s'en faire des figures paternelles à qui il va dire en gros ou bien vous servez sous mes ordres, ou bien je vous défonce. Et puis, globalement, hein, tous ces tous ces tout ce qu'il va trouver, il va ou bien s'en servir, ou bien l'anéantir. Puis de toute façon, en vrai, la plupart de ces entités-là étaient plutôt contentes de le voir. Hein. Parce que les anges n'étaient pas vraiment vénérés. En général, c'était plutôt les cavaliers qui étaient vénérés à leur place, pour différentes raisons. Les démons, pareil, ils étaient forcés de se battre ou ils étaient chassés. Bref. En gros, il leur a offert un pont d'or, quoi. Et la plupart n'ont pas vraiment pu... n'avaient ni d'intérêt, ni de l'envie de refuser. Jusqu'à ce que... on pourrait se poser la question. Si Azlia a réussi l'ascension comme ça, pourquoi est-ce que d'autres échards n'ont pas pu faire la même chose? Ben, c'est le cas. C'est le cas. Deux échards ont réussi à faire la même chose. Inua et Cléon. Qui étaient également des échardes de création, qui avaient également été vénérés par l'humanité, jusqu'à atteindre la conscience, et qui avaient également grandi en puissance et en complexité. Ils étaient individuellement moins puissants que Neta Azlia. Eux, ils étaient plutôt de l'ordre de petits royaumes, en fait, ou d'un Azlia de quelques siècles auparavant. Sauf qu'Azlia, ben... il les avait pas vus venir, ces deux-là. Hein. Il n'était pas très content de les voir, d'ailleurs. Parce que ça fait deux entités qui sont capables de le défier. Alors certes, individuellement, il est plus fort qu'eux. Mais ensemble, ils peuvent être une menace. Et si pas une menace militaire, on va dire. Une menace en termes de...
croyance.
Religieuse, ouais. Croyance. Et d'un autre côté, Cléon et Ninua, ils étaient aussi assez embêtés déjà de se voir eux-mêmes, de se voir eux deux, et de voir Azlia qui était clairement plus puissant qu'eux. Alors, ils ont discuté. Ils ont discuté plutôt que de se mettre sur la tête. Et Azlia leur a dit, écoutez, je veux pas me battre. Vous deux, vous pourriez me détruire. Et vous voulez pas vous battre. Parce qu'individuellement, je pourrais vous détruire. Et d'ailleurs, je me rends compte depuis le début que j'arrive pas à faire vénérer correctement la mère et le soldat, donc les deux aspects du Panthéon, à mon peuple. Toutes leurs vénérations vont à quelqu'un d'autre. Et oui, parce qu'en fait, Cléon avait pris l'aspect du soldat depuis le début, et Ninua avait piqué l'aspect de la mère depuis le début. Ils étaient en train de vampiriser cette énergie, en fait.
Et bâtard!
Alors, c'était un peu à leur corps défendant, hein. C'était pas ce que... Mais du coup, Azlia leur a dit, écoutez, je fais mettre le soldat et la mère comme figure majeure du Panthéon. Moi, je reste le dirigeant. On fait un triumvirat. Et comme ça...
tout le monde est content.
Vous êtes content, je suis content. Vos petits royaumes, on les met dans le dominion, comme ça, eux, ils sont en sécurité et vous êtes content aussi. Et puis, voilà, quoi. On serre la main et puis on va faire la
fête. C'est une bouffe, ouais.
C'est comme ça que ça s'est passé. Ils ont accepté, parce qu'ils se sont bien rendus compte qu'ils n'avaient pas l'intérêt à refuser. Ils ont accepté. Et c'est comme ça que le Panthéon a été complet. Et pendant plusieurs siècles, alors 3, 4, 500 ans à peu près, ça a continué comme ça. Bon, évidemment, Azlia, qui était un petit malin, en a profité pour, subtilement, par-ci, par-là, diminuer peu à peu l'influence de la mère et du soldat pour... rediriger vers lui la majorité de la ferveur de ces gens.
Ouais, c'est un détail.
Ça est pour diminuer l'influence de Cléon et de Ninua sur le Dominion. Et quand il était devenu beaucoup plus puissant qu'eux, il s'est contenté de les laisser à leur place. Il n'a pas osé s'en prendre à eux, et eux n'ont pas osé s'en prendre à lui. Alors pourquoi eux deux ne se sont pas pris à lui? Ça c'est évident, parce qu'ils avaient peur de son pouvoir. Pourquoi est-ce que lui ne s'en s'est pas pris à eux? Ou bien qu'il avait peur qu'ils avaient une carte encore dans leur manche et qu'ils puissent la retourner contre lui. Que leur combat détruise le capital, son dominion, et qu'il perde son accès au pouvoir. Que, en tout cas, quelle que soit sa raison. Il les a laissés à leur place, ça lui convenait bien, Ça leur convenait pas trop, mais ils se sont fait avec. Et à vrai dire, c'est là que pas mal d'historiens se disent que s'ils avaient pris Cléon et Nua leur courage de main et qu'ils s'étaient débarrassés d'Asgia, ils auraient peut-être pu éviter les problèmes qui arriveraient ensuite.
Ouais, on peut toujours faire l'histoire avec des si.
C'est ça. Avec des si, on mettrait Capita sans bouteille. Je tenais à la faire.
Ou en cendre.
Voilà. Et ensuite est arrivée l'heure de la croisade nordique. C'est-à-dire que Azlia s'est tournée vers le nord, où se dressait la grande spire d'Yggdrasil, et s'est dit, on va y faire une croisade.
Comme ça, il s'est levé le matin, il s'est dit,
Il y a une raison à ça. Une raison qui est qu'on lui a grosso modo dit que ceux qui se trouvaient dans cette spire pouvaient menacer son pouvoir.
Ah. D'accord.
Et nous verrons dans le prochain épisode de quoi il s'agissait.
Et qui lui a glissé, murmuré, tu le diras dans le prochain épisode ?
Oh, je peux bien le dire maintenant. Je laisserai juste passer un nom. Un certain Loki.
Oh, le bâtard. C'est mon chat. Ok. Quel suspense.
Oui. Et on va arriver à une des parties les plus intéressantes du lore, je trouve.
D'un autre côté, je crois que tu as dit ce qu'il y avait sous Yggdrasil dans le précédent.
Il y a beaucoup de choses sous Yggdrasil.
En fait, quand je pense, je crois que même quand on en parlait entre nous, il y a quelques trucs sous Yggdrasil, ouais. Donc en fait, on sait pas ce qu'il veut. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup. Encore un récit, ma foi, fortement passionnant et j'ai hâte d'être au prochain. J'espère que vous, chers auditeurs, voilà. Merci Lienard, merci à vous. C'était Billy the Kid, fin de l'épisode. À vous les studios et je vous fais des gros bisous à tous. À la prochaine, ciao.
À la prochaine.